Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à participer à ce colloque. Je suis impressionnée d'abord par le français du professeur qui vient de me précéder. Moi, j'ai vécu 5 ans au Japon. Je sais juste dire Ohayo gozaimasu. J'ai oublié tout le reste. Donc vraiment, bravo. Ça marque vraiment l'intérêt aussi que vous portez à notre pays et à son droit. Et voilà, je tenais à vous le faire remarquer. Donc, où en sommes-nous ? Bien, nous avons tout repris à zéro. Comme vous l'avez rappelé, nous en sommes à notre 25e révision de la Constitution. La première révision durant ce quinquennat a été retirée de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et c'est de nouveaux textes dont nous sommes saisis actuellement. Donc pour nous, la Constitution est justement, contrairement peut-être au Japon, une matière qui est à la fois extrêmement vivante et extrêmement concrète. Et la capacité justement de la Ve République est de perfectionner, d'adapter la Constitution quand les circonstances l'existent. Et pour nous, il s'agit de sa principale force. On voit bien déjà la différence avec la Constitution japonaise qui, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, résiste très bien face au temps. La nôtre, justement, a vocation à s'adapter, à s'assouplir et à se modifier avec le temps qui passe. Donc, depuis son entrée en vigueur, vous l'avez rappelé, il y a un peu plus de 60 ans, elle a été modifiée 24 fois. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est peu ? Alors, vu du Japon, manifestement, c'est beaucoup. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu dans chacune de ces réformes la même impact. Certaines ont eu un véritable impact sur le fonctionnement de nos institutions, d'autres non. Et finalement, celles qui ont vraiment impacté nos institutions et la vie de notre pays ne sont pas si nombreuses. On peut penser bien sûr à la révision de 1962 qui a vu l'élection du président de la République au suffrage universel. On peut bien sûr penser à celle de 1974 avec la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires, à celle de 1999 qui m'est particulièrement chère puisqu'elle prévoyait l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égal accès aux mandats électoraux. La révision de 2000 qui a vu l'arrivée du quinquennat. On se demande encore aujourd'hui si c'était une réelle bonne idée, mais en tout cas, elle a eu un impact certain sur nos institutions. La révision de 2003 avec l'organisation décentralisée de la République, qui est quelque chose d'assez fondamental et que nous allons probablement prolonger dans les mois qui viennent. Et puis la révision de 2008 qui a vu la naissance de la question prioritaire de constitutionnalité. Et donc cette question prioritaire de constitutionnalité a rendu plus que jamais notre Constitution extrêmement vivante puisqu'elle a permis son appropriation par le citoyen et non plus simplement par le juge constitutionnel ou le législateur. Donc les réformes produisent à chaque fois des effets concrets et qui irriguent complètement notre ordre juridique. Il est finalement quand même assez rare pour nous, en tout cas à nos yeux, que le législateur se soit érigé en constituant, suffisamment rare pour en mesurer l'importance. Et son pouvoir dérivé de la Constitution existante consiste essentiellement à moderniser ces institutions donc, qui ont été créées il y a un peu plus de 60 ans. Mais nous souhaitons donc rester fidèles à ces institutions de 1958 tout en les adaptant. Et il n'est nullement question, jamais, de faire du passé ou du présent table rase, sauf à vouloir une nouvelle révolution, mais à ma connaissance, ni le peuple français, ni sa représentation, en tout cas la grande majorité de sa représentation, ne le souhaite. Donc en examinant une révision constitutionnelle, nous évoquons les pères fondateurs de la Constitution de 1958, le général de Gaulle, Michel Debré, René Capitan et bien d'autres. Dans le cadre de l'examen de la révision constitutionnelle de 2018, nous avons eu le plaisir en commission des lois d'entendre également des personnalités éminentes, Robert Badinter, Jean-Louis Debré bien sûr et Pierre Mazeaud. Nos travaux se nourrissent également de la réflexion de nos prédécesseurs, réunis en comité, je pense au comité Simone Veil notamment, au comité Balladur, au rapport Bartholone-Vinocq. Et je n'oublie pas, bien sûr, l'apport des universitaires ainsi que l'observation des régimes étrangers. Nous nous inscrivons ainsi dans une continuité, celle de l'histoire de la Ve République. Mais voilà, le monde change, les sociétés évoluent, et il arrive que nous devions adapter notre loi fondamentale à notre vivre ensemble. Et les institutions sont aussi ce que les hommes en font. Donc dans la diversité des visages et des profils présents à l'Assemblée nationale depuis la précédente législature, je ne vois qu'une évidence en somme. Nous sommes les représentants et les dépositaires du désir de changement qu'ont exprimé les Français récemment. Ce désir est celui d'institutions du XXIe siècle, capables d'accompagner les évolutions de la société. Donc l'efficacité, la représentativité, la responsabilité, donc c'était les noms de la précédente réforme constitutionnelle, pour nous ce ne sont pas des incantations, ce sont vraiment des exigences. Et nous pensons que la démocratie française a vraiment besoin d'un nouveau souffle. Donc c'est la raison... je ne sais pas si vous souhaitez que j'en parle du processus législatif qui a un petit peu émaillé cette réforme. Vous savez qu'elle faisait l'objet qu'elle était contenue dans le programme présidentiel du président Macron, qu'elle a été déposée sur les bureaux de l'Assemblée nationale il y a presque 18 mois maintenant. Que nous avons commencé nos travaux en commission des lois au mois de mai 2018, que nous avons étudié ce texte, examiné ce texte en commission et effectué de nombreux apports, donc des apports parlementaires. Et puis nous avons abordé l'examen du texte dans l'hémicycle et nous nous sommes heurtés à une très forte résistance de nos oppositions sur ce texte et nous avons été contraints d'arrêter l'examen du texte au mois de juillet 2018. Et le président de la République a fait le choix, plutôt que de reprendre l'examen d'un texte qui avait été suspendu, de, d'une part, redéposer un nouveau texte, mais surtout de redéposer un nouveau texte qui tienne compte de ce qui s'était passé. Il considérait, avec raison je pense, qu'on ne pouvait pas faire comme si il ne s'était rien passé en France, comme si les citoyens n'avaient rien exprimé ces derniers mois. Et donc le nouveau projet constitutionnel tient compte de ces événements en France qu'on a appelé Gilets jaunes, puis le grand débat. Et donc nous avons été à l'écoute de ce que nous disaient les Français et le projet donc a été réorienté et nous l'avons appelé maintenant pour un renouveau de la vie démocratique et il me semble qu'il répond peut-être encore plus qu'avant aux aspirations exprimées par les Français. Donc cette réforme, on peut la diviser un peu en deux blocs. On a un premier bloc qui est très concrètement contenu dans le texte de réforme constitutionnelle et qui permet d'acter des modifications, somme toute, extrêmement consensuelles. Mais c'est peut-être une bizarreté de la vie politique française, ce n'est pas parce que c'est consensuel que nous arrivons à adopter des textes et à les faire voter par l'ensemble des députés. Pour autant, je ne désespère pas. Donc dans ces modifications qui sont somme toute très consensuelles, nous avons inscrit dans la réforme une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez qu'en France, très fréquemment, en tout cas trop fréquemment à notre goût, l'indépendance de la justice est questionnée, soit par nos citoyens, soit par certains hommes politiques. Et nous ne pouvons pas laisser prise aux soupçons. Dire que la justice doit être indépendante, c'est aussi dire qu'elle doit apparaître comme telle. C'est un petit peu l'adage, il faut faire et il faut faire savoir. Là, c'est pareil. Il faut montrer, il faut poser un acte fort pour montrer que la réalité de l'indépendance de notre justice est quelque chose qui est gravé dans le marbre de notre Constitution. Donc nous souhaitons... pour se faire aller au bout d'une réforme engagée depuis longtemps, c'est-à-dire affirmer les garanties relatives à l'indépendance des magistrats du parquet. Donc pour ce faire, ces magistrats seront désormais nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, alors que cette conformité, aujourd'hui, n'est pas formellement exigée, même si, dans les faits, c'est une pratique à laquelle s'astreint le garde des Sceaux. Au-delà des textes, il y a également le Conseil supérieur de la magistrature statuera également comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du parquet. Ainsi, les magistrats du parquet et les magistrats du siège auront leur statut qui se rapprocheront réellement sans remettre en cause un des grands principes de notre Constitution qui est que le gouvernement conduit la politique pénale de la nation et donc le ministre, le garde des Sceaux peut quand même donner des instructions d'ordre général relatives à cette politique pénale mais en aucun cas des instructions individuelles. Donc ça c'est un point qui est majeur, qui est consensuel à tel point qu'il a d'ores et déjà été voté par nos assemblées Sénat et Assemblée nationale lors de la précédente mandature, mais l'adoption de cette loi constitutionnelle n'a pas pu aller à son terme en matière de ratification. Le deuxième point extrêmement consensuel parmi nous, c'est la suppression de la Cour de justice de la République. On en a encore entendu parler extrêmement récemment lors de l'affaire de Jean-Jacques Urvoas. Cette Cour de justice de la République est une incongruité, j'allais dire, de notre ordre juridique. Aujourd'hui, les politiques en France sont jugées en partie par des politiques. Ça donne lieu à une certaine suspicion, que ce soit dans l'examen de la culpabilité de ces personnes ou dans le prononcé de la peine qui est bien souvent jugée clémente, en tout cas perçue comme telle par nos concitoyens. Donc cette juridiction qui avait été créée en 1993, mais elle a été créée en 1993. Merci, monsieur le professeur. Oui, il y en a toujours des choses à apprendre. Donc elle n'a convaincu, comme je vous le disais, ni l'opinion, ni les juristes. Et donc l'idée de la révision constitutionnelle, c'est de la substituer par une juridiction de droit commun. Donc il s'agirait de la Cour d'appel de Paris. Nous travaillons dans le cadre de cette révision sur la difficulté que posent les poursuites de complices ou de co-auteurs qui aujourd'hui n'étaient pas jugés par la Cour de justice de la République, ce qui donnait parfois lieu à des décisions contradictoires avec des prononcés de culpabilité par une juridiction, par exemple, d'un auteur, et des décisions de relax de l'auteur, et en revanche, des reconnaissances par des juridictions de droit commun de culpabilité du complice, donc d'une infraction principale dont l'auteur a été relaxé. Ce qui donnait vraiment lieu à des acrobaties intellectuelles qu'il nous semble ne plus devoir exister. Donc nous réfléchissons dans le cadre de la suppression de la Cour de justice de la République a également permettre des poursuites conjointes entre les politiques et les personnes qui seraient liées aux infractions, mais qui ne seraient pas des politiques. Et sur ça, également, il y a un consensus très fort avec nos collègues sénateurs et au sein de notre Assemblée. Donc je ne doute pas que nous arriverons à supprimer cette juridiction. Nous allons également acter l'évolution du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la question prioritaire de constitutionnalité et avec notre pratique qui est de confronter notre législation avec notre Constitution, le Conseil constitutionnel s'est vraiment érigé en une cour constitutionnelle en France. Et donc il s'agit de vraiment consacrer cette évolution, non pas en changeant le nom, ce qui serait purement cosmétique, mais en supprimant la présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel, ce qui revient également à entériner une pratique. Vous savez tous que ni le président Hollande, ni le président Sarkozy ne siègent au Conseil constitutionnel, le président Chirac n'y siégeait pas également, mais le président Giscard d'Estaing, m'a-t-on dit, est extrêmement assidu assidu. Mais donc, voilà, pour l'avenir, nous prévoirons l'absence de la présence des anciens présidents de la République et nous concentrerons donc la présence aux 9 juges qui sont nommés, comme vous le savez, par les autorités, donc président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Nous souhaitons également réaffirmer et franchir une nouvelle étape de la décentralisation. Comme je vous l'indiquais, en 2003, nous avions inscrit dans la Constitution le fait que la République avait une organisation décentralisée. Donc aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin et permettre une véritable différenciation. Nous avons en France une habitude assez centralisatrice avec un principe d'avoir une législation qui va s'appliquer de manière égale et identique sur tout le territoire. Or, depuis plusieurs années, il y a une véritable aspiration qui monte des élus de tout le territoire de demander à ce qu'on prenne réellement en compte leurs spécificités. Des spécificités territoriales qui feraient qu'ils pourraient avoir plus de possibilités d'avoir une législation spécifique. Donc nous souhaitons leur permettre davantage cela et donc inscrire véritablement dans la Constitution ce droit à la différenciation. Donc nous avions, ce qui nous permettra également cette différenciation de répondre à cette volonté des collectivités de métropole, mais également cela va toucher les collectivités d'outre-mer, dont on sait en France qu'elles constituent vraiment la richesse de notre territoire, mais qui également, elles, ont encore plus que tout des spécificités. Et donc la question qui se pose avec elles, c'est jusqu'à quel point elles doivent avoir des statuts spécifiques et également jusqu'à quel point elles doivent avoir des statuts qui leur soient propres pour chacune d'entre elles. Donc c'est aussi une réflexion que nous portons avec toujours ce double regard, cette ouverture de plus de spécificités, mais sans perdre ce qui fait également la force de notre République, c'est-à-dire son unité. Donc il faut vraiment bien réussir à combiner ces deux principes. Et puis il y a toujours dans cette différenciation territoriale l'inscription de la Corse dans la Constitution pour également reconnaître les particularités de ce territoire. Donc cela, pour moi, c'est assez consensuel et j'espère que ce sont des réformes qui aboutiront en 2020 et ce sont des réformes qui viennent de loin, j'allais dire, dont on parle depuis longtemps. Il y a aussi aujourd'hui des enjeux fondamentaux du 21e siècle qui doivent, à notre sens, être pris en compte dans notre révision constitutionnelle. Parmi ces enjeux fondamentaux, et ça n'aura échappé à personne, le monde entier est saisi actuellement de la question environnementale, de la question de la protection du climat et de la biodiversité. Et la Constitution, elle sert aussi à ça, elle sert à organiser les relations entre les institutions, entre les pouvoirs publics, mais elle sert aussi à nous fixer des grands objectifs, les grands principes auxquels vraiment la République tient. On parlait d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle de la laïcité. Et il nous a semblé essentiel que dans l'article 1er de notre Constitution, qui est vraiment l'article qui pose vraiment les grands principes sur lesquels nous sommes assis, que les enjeux environnementaux devaient y figurer. Donc c'est quelque chose qui figurait dans la précédente révision constitutionnelle et donc que nous allons maintenir. Il y a une petite discussion avec le Conseil d'État qui souhaiterait que nous n'utilisions pas le terme « agir » parce qu'il considère que « agir » est un verbe d'action et qu'il est trop engageant. Je ne sais pas quoi trop en penser, parce que si nous disions à nos concitoyens qu'en matière de changement climatique et de protection de la biodiversité, le temps de l'action n'est pas venu, je crois que nous passerions, je n'ose nous qualifier. Donc je crois vraiment que ce principe d'action justement est quelque chose qui nous engage et qui doit nous engager. Donc nous avons quelques peut-être modifications symboliques que nous pourrions apporter, que nous avions apporté la dernière fois en supprimant par exemple le mot race dans la Constitution, dans cet article 1 qui dit que la République ne fait pas de distinction entre les personnes, justement des distinctions fondées sur la race. Il y a des discussions de constitutionnalistes et je serais ravie de vous entendre sur ce point, de savoir si justement ça ne rendrait pas plus compliqué toute la législation antiraciste que nous avons mise sur pied. Donc je serais vraiment intéressée d'avoir votre opinion, messieurs les professeurs, sur cette question de la race. Ensuite, et je l'avais dit dans mon introduction, comme vous le savez, la France a traversé une vraie crise sociale à l'automne 2018, où les citoyens nous ont crié leur souffrance, crié parfois leur malheur, et nous avons organisé quelque chose d'assez inédit en France qui s'appelle le Grand Débat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette séquence démocratique absolument incroyable durant laquelle les Français se sont rendus dans leurs mairies pour remplir des cahiers de doléances, se sont rendus dans des salles communales pour échanger entre eux, ont échangé avec des politiques, avec moi-même sur ma circonscription. J'ai assisté à une réunion avec le Premier ministre et un temps d'échange avec 200 citoyens qui ne savaient pas que le Premier ministre venait. Et donc ils venaient un vendredi soir pour échanger, pour discuter, pour se dire des choses. Et de ce temps qui a duré 3 mois et qui a été vraiment un moment où on a redécouvert l'intérêt que les Français avaient pour la politique, ils nous ont beaucoup dit que ce moment d'échange, que cette contribution qu'ils souhaitaient faire aux décisions ne devait pas être éphémère, que ça ne devait pas être un coup pour rien, et qu'ils souhaitaient que l'on échange avec eux beaucoup plus souvent qu'une fois tous les 5 ans lors d'une élection présidentielle ou législative, et qu'il fallait qu'on imagine des espaces de dialogue et une façon vraiment plus moderne d'envisager l'espace démocratique. Et donc, nous avons souhaité y répondre au sein de cette nouvelle réforme constitutionnelle par une profonde transformation du Conseil économique, social et environnemental que nous allons transformer en Conseil de la participation citoyenne. L'idée, c'est de créer un espace de participation citoyenne dans lequel les citoyens vont pouvoir, tout au long de l'année, échanger, discuter, confronter leurs points de vue, entendre des experts, découvrir, parce qu'on le sent intuitivement, mais tant qu'on n'est pas au cœur de la discussion, on ne le vit pas, découvrir la complexité de la décision publique qui oppose toujours des positions et des injonctions parfois contradictoires ou en tout cas difficilement combinables. Et donc l'idée, c'est que les citoyens s'emparent de cette question-là. Donc ce Conseil de la participation citoyenne qui réunira et des personnes qui font partie de ce qu'on appelle la société civile organisée, donc des syndicats, les corps constitués, syndicats, associations, groupements de travailleurs, de jeunesse en faveur de l'environnement, contiendra également des citoyens qui pourraient être tirés au sort et qui pourront participer au débat public et pourquoi pas à l'élaboration de la décision collective. Ce Conseil de la participation citoyenne pourra être saisi par le gouvernement, pourra être saisi par les assemblées, pourra être saisi par les citoyens, par l'intermédiaire de pétitions. Et donc maintenant, il faut que nous organisions, et ce sera l'objet des débats, la combinaison entre ces deux démocraties, la démocratie représentative que nous sommes au Parlement et cette démocratie plus participative, et ces deux démocraties ne doivent pas s'entrechoquer, ne doivent pas s'opposer, mais au contraire se combiner, s'articuler, parce que finalement elles résultent toutes deux du peuple, et donc leur légitimité est la même. Maintenant, il faut vraiment que l'on réussisse à en tirer une force et à faire que nos délibérations au Parlement, leurs délibérations, s'en trouvent améliorées et que ça nous permette collectivement de nous élever, vraiment, de nous élever. Donc ce Conseil de la participation citoyenne va faire l'objet d'un titre à part dans la Constitution, c'est dire la force que nous donnons à cette réforme. Et puis nous allons réformer le référendum. Comme vous le savez, en France, nous n'avons qu'une pratique très limitée du référendum, de la consultation directe du peuple pour une question précise. Nous l'utilisons de façon assez régulière pour nos outre-mer, effectivement, pour les collectivités d'outre-mer qui assez régulièrement sont soumises à référendum pour savoir vers quelle organisation elles souhaitent aller. Nous avons eu l'année dernière un référendum sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie qui a permis à la population de Nouvelle-Calédonie de dire que pour le moment ils souhaitaient rester français. Donc nous avons ce type de référendum, mais les référendums sur le territoire métropolitain ne sont que très peu nombreux. Il y en a eu sur l'adhésion à la constitution de Maastricht, la ratification de la constitution de Maastricht, mais voilà, c'est un usage que nous n'avons que peu, et il nous semble que c'est un élément également que les citoyens nous ont dit. Nous voulons être consultés directement plus souvent. Vous savez, pendant les manifestations, il y avait des revendications pour un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Nous pensons, et c'est ce que nous proposons dans la réforme de la Constitution, qu'il faut être sur un référendum d'initiative partagée. Pour reprendre l'idée que je vous ai indiquée tout à l'heure, de ne pas opposer les citoyens aux parlementaires. Donc le référendum d'initiative partagée est un mécanisme qui permet de procéder à un référendum, mais seulement si les parlementaires et les citoyens le veulent. Donc c'est vraiment une combinaison de ces deux demandes qui peut conduire à un référendum d'initiative partagée. Ce que nous faisons de façon très forte dans la réforme, c'est de baisser les seuils et de les amener donc à 1 million de citoyens. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 millions et on voit bien à quel point les personnes ont du mal à réunir le nombre de signatures dans le cadre là d'un référendum qui est lancé sur le référendum d'aéroport de Paris. Donc nous baissons le seuil à 1 million et pour les nombres de parlementaires, ce sera un dixième du nombre de parlementaires. Donc les deux seuils étant abaissés, nous espérons que nous pourrons avoir recours plus fréquemment au référendum. Nous en élargirons également le champ des matières susceptibles à donner lieu à un référendum. Donc le projet de loi, je vais terminer par là, le projet de loi donc pour un renouveau de la vie démocratique, qui est un projet de loi de réforme constitutionnelle, s'accompagne de deux projets de loi, un projet de loi organique et un projet de loi simple. Le projet de loi organique prévoit de réduire le nombre de parlementaires d'à peu près 30%. Et d'introduire le non-cumul dans le temps, c'est-à-dire de dire que en France, un parlementaire, un maire, un élu ne pourra exécuter plus de trois mandats identiques de façon successive. L'idée, c'est à nouveau de répondre à cette demande exprimée très fortement par les citoyens, que ce soit en 2017 ou pendant le grand débat, de renouveau démocratique et de faire en sorte que nous puissions, en quelque sorte, oxygéner notre vie démocratique et d'éviter les carrières politiques comme nous pouvions les voir auparavant et donc d'essayer de les réduire. Et puis le projet de loi simple est un projet de loi qui introduit une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale parce que certains partis politiques n'ont pas la représentation à l'Assemblée qui correspond ce qu'ils représentent dans le pays lorsqu'il y a des élections nationales. Donc l'idée, c'est d'introduire une part de proportionnel pour ne pas remettre en cause notre régime majoritaire, mais pour permettre une meilleure représentation de tous les citoyens dans notre Assemblée. Donc ces projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, la commission des lois donc en est saisie, mais en revanche, ils ne sont à ce jour pas inscrits à l'ordre du jour de nos assemblées, donc nous n'avons pas encore de calendrier d'examen de ces textes. Vous savez que le processus de révision constitutionnelle en France est assez précis. Concernant le texte constitutionnel, il faut donc que les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, soient d'accord sur un texte commun, sans possibilité de commission mixte paritaire. Et ce texte commun doit après être adopté soit aux 3/5 par le Parlement, donc réuni en congrès, soit par référendum. Voilà, je vous remercie.